Émission spéciale Expertise Galtier,
présentée par Sylvain Lévy-Valency
sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Vous avez vu dans le titre, tout est dit. On va travailler sur un sujet, sur l'expertise globale d'un actif immobilier et surtout un actif industriel. Inutile de vous dire, les amis, qu'on est dans le cœur du réacteur, puisque depuis que notre cher président veut réarmer la France à tout point de vue, y compris la relocalisation de l'industrie, c'est un sujet extrêmement vaste, mais comment le faire, de quelle façon, quel est le processus, effectivement, lorsqu'on a une friche industrielle, lorsqu'on travaille les valeurs, et ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes très nombreux à vous poser des questions. Justement, on s'était dit qu'avec nos partenaires de Galtier, qu'on allait justement parler de ce sujet. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau la directrice générale déléguée associée, directrice du pôle immobilier de Galtier Valuation. Bonjour Coralie Couvret.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très très bien.
Je suis ravi d'être avec vous. On a deux grands spécialistes hein, dans le groupe Galtier. On a le directeur général délégué associé du pôle, directeur du pôle sinistre, David Pitoun. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Là, pour le coup, effectivement, on va vous poser plein de questions qui sont parfois techniques. Et comme vous le savez, lorsqu'on fait un peu de technique, on essaie de vulgariser un max pour que nos auditeurs puissent bien comprendre. Également, pour le directeur du pôle évaluation associé du groupe Galtier, c'est Laurent Cousin.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Laurent, comment ça va ?
Très bien.
La barbe est toujours aussi belle.
Toujours.
Voilà. Alors vous, on ne vous oubliera pas.
Hein. C'est ce qu'on dit souvent.
Ça, c'est sûr. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Alors, on a un gros sujet sur, justement, la définition des actifs. Moi, ce que je vous propose, c'est que chacun, à votre mesure, je vais vous poser un certain nombre de questions pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Mais dans un premier temps, je vous propose, ma chère Coralie, de présenter le groupe Galtier, qu'on connaît bien, hein, plus de 130 ans de maison.
Alors, cette année, nous faisons 130 ans. 130 ans d'expérience au service de nos clients. Donc nous sommes une jeune dame, comme dit David, une jeune dame qui possède une forte expérience dans l'évaluation d'actifs corporels et incorporels pour tout type de clients, hein, privés, professionnels, quelle que soit la taille, quelle que soit l'implantation aussi, puisque nous sommes effectivement 280 collaborateurs en France sur 14 implantations pour un chiffre d'affaires de 41 millions, un petit peu de pub hein, au passage.
Oui.
Et nous intervenons aussi par des partenariats au Maroc, en Belgique, et il faut aussi savoir que nous intervenons dans le monde, partout. Je crois qu'en ce moment, il y a des collaborateurs en Chine, en Asie, sur différents domaines. Donc,
à l'international.
Tout à fait. Pour accompagner nos clients, nous traversons la planète. Donc voilà, nous sommes au service de nos clients et notre groupe a la particularité d'être peut-être l'un des seuls ou un des rares groupes indépendants puisque nous détenons, nous collaborateurs, le capital de la société avec la famille Galtier. Donc ça, c'est un point très indépendant d'indépendance, c'est très important.
Moi, je trouve ça même, c'est même un cas d'école, c'est fondamental. Parce que comment peut-on parler d'expertise, permettez-moi, hein, ça c'est mon avis de journaliste, si on n'est pas totalement indépendant. Ça m'a toujours surpris, mais sans critiquer, que certains groupes qui sont des opérateurs aient des filiales d'expertise. Ça m'a toujours un peu surpris. Je pense que le fait de s'adresser à un expert qui ne fait que ça est une garantie d'objectivité et d'impartialité.
C'est une garantie, et puis pour nos collaborateurs d'être associés, d'accéder au titre d'associé, c'est aussi une implication dans la société, c'est très important.
Bien sûr. Vous êtes numéro 1 aujourd'hui,
oui,
sur le marché.
Sur le marché de l'évaluation, nous sommes le numéro 1 de manière globale sur les trois pôles. Donc nous fonctionnons en trois pôles, donc David s'occupe du directeur du pôle sinistre, il va nous parler tout à l'heure de toutes ses activités au niveau du sinistre, qui est le métier d'origine du groupe, puisque nous accompagnons nos clients sinistrés. Et puis, Laurent vous expliquera le pôle évaluation, toutes les différentes palettes des métiers dans le pôle évaluation. Et moi, je m'occupe du pôle immobilier, qui regroupe à la fois des diagnostics environnementaux, des diagnostics bâtiments, réglementaires et toute la partie évaluation immobilière, valeur de marché.
Ça a le mérite d'être extrêmement clair. Non, mais c'est important ce que vous disiez sur l'indépendance de l'expertise, parce que c'est un vrai sujet. Et quand on voit les volumes de valeurs aujourd'hui, il n'y a juste pas photo. On ne peut pas vendre sans expertise, vous le savez. Et que dans les investissements, notamment, je pensais aux investissements à impact, La qualité de l'expertise me semble essentielle. Voilà, c'est un mot adressé à certaines personnes qui se reconnaîtront très bien dans ce que
alors,
je dis.
Juste un petit mot pour dire qu'en plus, nous sommes très attachés effectivement au service aux clients, mais aussi à la qualité, puisque nous avons différentes certifications dans nos différents pôles, à la fois individuelles pour nos collaborateurs.
Qui sont des certifications
sociétés
internes.
Place.
D'accord.
Donc, sur la partie évaluation sinistre, il y a la certification UPMEC.
UPMEC.
Nous avons, au niveau du pôle immobilier, sur la partie environnement, LNE, cité sol pollué. Donc, nous sommes aussi ISO 9001. Nous sommes récemment rentrés à la Frexim, chez Galtier Evaluation. Et nos collaborateurs sont aussi certifiés les uns individuellement, donc nous sommes très attachés à cette qualification qui est gage de qualité.
Il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui, en globalité, sur les labels, sur les garanties, aujourd'hui, par rapport à l'acteur que vous êtes. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui ressemblent un petit peu...
Non. Dans la globalité,
parmi
non.
Les players,
trois métiers,
parmi
non.
Les players,
individuellement,
parmi les players.
Oui,
en globalité, hein, je veux dire.
Oui, tout à fait.
Oui, il peut y avoir des...
Présent sur les trois secteurs d'activité, non. Il n'y a pas de...
Avec ces certifications-là,
ouais, c'est un sacré développement, hein. Et il y a une volonté en plus extrêmement intéressante justement du groupe Galtier d'associer tous ses collaborateurs.
C'est ça.
Ouais. Aujourd'hui, c'est très important. On parle beaucoup de l'humain, des collaborateurs, comment les faire monter en compétences et les garder. Et je trouve que d'être associé, on ne connaît pas d'autres groupes où on puisse tout de suite être associé.
À l'heure où on parle d'investissement solidaire et responsable, de ESG et de RSE, forcément, vous êtes en plein dedans. On va entrer dans le sujet parce que les actifs industriels, c'est le cœur. Vous savez, hein, c'est la dent creuse en ce moment. Et très franchement, je vais vous dire, les élus locaux, et on peut le comprendre, ne savent pas trop jour comment prendre ce sujet à bras-le-corps. D'abord, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un actif industriel ?
Alors, un actif industriel, c'est un ensemble immobilier qui est composé d'un ou de plusieurs bâtiments, dans lesquels il y a des fonctions de transformation et de fabrication. Ça, c'est vraiment le cœur de la définition. Donc, en fait, ça ne se confond pas avec un entrepôt. Puisqu'il y a dans un entrepôt pas forcément d'équipement technique ou d'outillage matériel. Dans une unité industrielle, il y a la présence d'installations techniques assez fortes et d'outils et de matériel. Donc ça, c'est la première définition.
D'accord.
Après, il y a des sites industriels de différentes tailles, selon les acteurs.
Et selon la nature, éventuellement.
Et selon la nature et la technicité aussi.
En question. Justement, vous intervenez sur toutes les classes d'actifs, on est d'accord ?
Toutes les classes d'actifs.
Et donc, dans ce contexte-là, vous intervenez également sur les actifs industriels. Vous savez, aujourd'hui, les expertiser.
Alors, on sait, au sein du groupe, intervenir sur toute la chaîne de ces actifs. Donc, l'actif, il est parfois en activité. Donc là, on évalue l'actif en activité dans le cadre des besoins comptables, des besoins de succession, des besoins de juste valeur ou pour des sinistres. Et puis, il y a les actifs en friche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, ces actifs-là sont délaissés.
Alors, un actif en friche, c'est un terrain en jachère, en fait, dans lequel il y a des vieux bâtiments.
Protégés, fermés.
Qui ont une certaine beauté, d'ailleurs.
Tout à
etc.
fait.
Une architecture spécifique.
Qu'on a, quand on était gamin, beaucoup squatté, d'ailleurs. Mmh. Voilà. Et puis, il y a eu des très beaux exemples de reconversion.
Et des histoires.
Il y en a plein en France. C'est incroyable.
Il y en a plein, puis c'est des histoires, c'est notre histoire, c'est l'âme de certaines régions. Donc ces actifs-là sont souvent fermés, protégés, pollués. Il ne faut pas se voiler la face. Donc là, nous pouvons intervenir. Alors, pour certains, ils sont bien localisés dans le cas des tensions foncières. On voit des reconversions. Pour d'autres, malheureusement, ils sont dans des villages où il ne se passe pas forcément grand-chose. Et donc, on peut intervenir sur la reconversion de ces sites.
Friche industrielle, est-ce qu'on sait... Alors, tout à l'heure, je disais, il y en a beaucoup. Et les statistiques ne sont pas suffisamment affinées pour donner le volume.
Non, parce qu'aujourd'hui...
On sait simplement que c'est considérable.
C'est considérable, mais ça ne fait pas partie des analyses que l'on connaît dans l'immobilier, où on sait le stock de bureaux, le stock de logements. Ces friches-là sont, pour certaines, très anciennes, fermées, vendues, revendues. Donc, effectivement, il y a sûrement un recensement qui existe, mais plus fiable à faire, à la fois au niveau des pollutions, au niveau des reconversions possibles et autres. Donc nous savons intervenir sur des projets de reconversion, soit en l'état, soit complètement de transformation, démolition
alors,
en partie.
Intervenir sur des projets de reconversion, de quoi s'agit-il ? Donnez-moi un exemple. C'est par exemple une friche industrielle qui éventuellement deviendrait ou serait réhabilitée pour faire de l'activité, pour faire du logement.
Soit une vraie exploitation industrielle pour des besoins d'une entreprise, soit une reconversion d'un site en logement, en bureau, en coworking, en espace événementiel. Beaucoup de sites retrouvent une vie avec des espaces événementiels où les collectivités prennent part et on garde.
Je l'ai vu à Roubaix, ça.
À Roubaix, dans le Nord, et on en parlait tout à l'heure, il y a un site très ancien qui sont les tanneries à côté de Strasbourg. Enfin, c'est très ancien et on a gardé une partie du bâtiment des tanneries. Autour, il y a un parc d'activités. Bon, maintenant, c'est très ancien. Donc, on garde une partie de l'âme du site et de l'histoire. Et autour, on peut reconstruire des pépinières d'entreprise, des locaux d'activité, toutes sortes de
d'ailleurs,
de
pour illustrer le propos, j'ai travaillé sur un dossier, un très très bel article, qui avait été sur un actif qui avait été requalifié par le groupe Absys Group. Maurice Bancet avait racheté tout le parc industriel à côté de, pas loin de, en Pologne, dans une ville qui s'appelle Lodz. Il a racheté Manufactura. Et c'est devenu le centre commercial mondial qui a eu le plus de prix dans les 50 dernières années. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, c'était les rois du coton là-bas à Lodz. Et il a gardé toute la façade. Et donc, quand on rentre à l'intérieur, on a l'impression de pénétrer dans un morceau d'histoire avec une reconfiguration commerciale absolument incroyable, gigantesque. C'est un pari fou.
Il y a vraiment des très beaux sites qui ont des prix, d'ailleurs, au MIPIM.
Est-ce qu'on intègre... est-ce qu'on intègre cette notion un peu holistique de la ville, l'histoire aussi du lieu? Est-ce que...
De plus en plus.
Voilà.
De plus en plus, et c'est très
les
important.
Les clients auxquels vous avez affaire tous les jours... s'intéresse aussi à ça.
Oui, parce que ça fait partie de la politique ESG, RSE, garder l'histoire, on parle pas là, mais l'économie circulaire aussi, on réemploie, on réutilise une partie du site. Donc c'est aujourd'hui tout à fait
Nos studios sont au 124 rue au mur, et cet immeuble a été le premier en Europe à avoir été construit intégralement en structure métallique. C'est le seul immeuble de la rue au mur qui est classé au monument historique. Et les structures que vous voyez viennent des ateliers de Gustave Eiffel. Je trouve ça assez remarquable. C'est intéressant de savoir, justement, quand on veut savoir où on va, de savoir d'où l'on vient, quoi, de ce point de vue-là. Je vous propose qu'on fasse un petit tour, justement, avec vous, David Pitoun. Alors, vous dirigez le pôle sinistre.
Oui.
Alors, c'est pas sinistre, évidemment. Je sais, on vous l'a fait 40 000 fois. Par contre, ce qui est très important, c'est que dans ce que vous faites, c'est vraiment extrêmement névralgique. Pour des aspects qui sont des aspects techniques, des aspects réglementaires, et du coup, l'expert prend une dimension toute particulière. J'aimerais que vous nous expliquiez, outre le fait qu'on vous appelle quand il y a des sinistres ou quand il y a des sujets qui sont des sujets extrêmement névralgiques, dont dépend d'ailleurs la vie de certaines entreprises peut-être, et l'avenir de... Parce que quand même savoir qu'il y a des gens qui peuvent dépendre de ça. Expliquez-nous un petit peu les contours de votre métier. Je voudrais comprendre comment ça fonctionne techniquement.
Où commence le conseil?
Par exemple.
Où commence le conseil? Le conseil commence... on est appelé à la suite d'un sinistre par un industriel, généralement. L'industriel va nous poser les premières questions. Mes 150 salariés qui sont devant la porte, qu'est-ce que je fais mes 150 salariés? Quels sont les outils avec le chômage technique qu'on peut mettre en place?
Tout à fait.
Donc là, on essaie de mettre en place tout ça avec lui. On essaie rapidement de trouver d'autres solutions, parce que existe-t-il des possibilités de sous-traitance, des choses comme ça? Il y a des contraintes du contrat d'assurance, puisque un contrat d'assurance n'est pas ouvert, n'est pas inclusive, all inclusive sur toutes les garanties. Donc rapidement et
sinon, ce ne serait pas un contrat d'assurance.
Rapidement, il faut qu'on cerne le sujet. Aujourd'hui, ce qui nous concerne pour la discussion de ce matin, c'était notamment le bâtiment industriel. Donc le bâtiment industriel, aujourd'hui, on ne peut plus reconstruire forcément à l'identique. Donc il y a mises en conformité à mettre en place. Il y a de la végétalisation de toiture, de couverture à mettre en place, tout ça. Et rapidement, on se trouve devant une impasse, de plus en plus rapidement, c'est-à-dire les garanties sont-elles suffisantes? Les garanties sont-elles suffisantes du contrat d'assurance? Donc aujourd'hui, rapidement, il faut qu'on ait un conseil auprès de l'industriel pour lui dire là, on risque d'être un peu embêté. Voilà comment ça va se passer. Voilà pour vos salariés, qu'est-ce que je vous propose? La sous-traitance, c'est bien, vous nous la proposez. Il va falloir faire attention au niveau de rentabilité de votre sous-traitance, puisque on n'est pas, comme je l'ai indiqué.
Ça va vachement loin, ce que vous faites.
Ah ben, on est dans le conseil, et puis on est dans la gestion de crise aussi. Parce que l'industriel a perdu son outil de production, il ne sait plus quoi en faire. Il y a ses clients qui disaient comment il l'appelle. C'est vraiment.
Donc vous avez
très
même une approche sociale, sociétale, psychologique,
complètement,
d'accompagnement.
Complètement.
Vous avez des gens parfois désespérés en face de vous?
Non, pas forcément, parce qu'à un moment donné, un sinistre peut devenir une opportunité aussi. Réfléchissons à une opportunité.
Expliquez-nous ça.
Alors,
non, parce que là, dans la même phrase, c'est.
Alors, un sinistre, on a perdu son outil de production. On avait une utilité avec une organisation, avec des outils qui étaient plus conformes, qui n'avaient plus la rentabilité. L'industriel choisit, au moment du sinistre, de changer son organisation. C'est-à-dire qu'il avait trois lignes de production, par exemple. Il va en prendre une, beaucoup plus flexible, qui va lui faire des produits. Voilà. Donc,
vous voulez dire que ce bouleversement dramatique peut être un formidable levier de croissance?
Tout à fait. Et dans les 10 ans à venir.
Bien
donc, c'est ça aussi.
Et vous l'accompagnez là-dessus?
Et on l'accompagne, puisque nous, on est, en fin de compte, on gère un peu les caisses à un moment donné. Et on lui dit, là, on peut aller jusqu'à là au niveau du financement, là, on peut aller jusqu'à là au financement. Et là, c'est à l'industriel de faire le choix là-dessus. Donc, c'est ça.
C'est presque du management, ce que vous faites.
Ah ben,
c'est du coaching à tous les niveaux.
On est pris tous les jours par nos sinistres, et notamment ce que j'appelle les deux premiers mois, je dis qu'on est dans la lessiveuse avec l'industriel. C'est-à-dire, et l'industriel nous presse de questions et il faut qu'on lui trouve des solutions. Problématique d'amiante. Une industrie avec une problématique amiante, avec des coûts qui sont de plus en plus importants. Hein. Donc aujourd'hui, on a des garanties qui sont assez limitées. Comment on va faire pour régler le problème de l'amiante et tout ça? Donc il y a beaucoup de questions qui sont soulevées comme ça, rapidement lors d'un sinistre.
Question, quand il signe un contrat d'assurance, est-ce que vous intervenez en amont parfois?
Non, c'est pas notre rôle ça.
Donc ça se trouve, il se trompe.
Bah, le contrat d'assurance, la matière du contrat d'assurance, on n'intervient pas. Par contre, mon ami qui est à côté, il va intervenir sur l'évaluation de ses capitaux. C'est-à-dire que sur la valeur d'assurance, là je peux passer la main à Laurent, mais sur l'évaluation des capitaux d'assurance, qui sont très importants, parce qu'aujourd'hui, dans des grands groupes, on en reparlera après avec Laurent aussi sur les immobilisations, parce que sur les immobilisations,
ce métier, vous me dites si j'ai dit une bêtise, c'est pas le métier des risk managers, ça?
Alors, il y a les risk managers, mais nous, on permet d'être à l'aide à la décision, en fin de compte. On leur met des outils pour que lui, il tranche, il arbitre sur des choses.
Laurent Cousin? Sur ce sujet, réaction sur l'évaluation. Est-ce qu'on a parce que on a deux catégories d'industriels. On a des TME, des PME, des PMI, des ETI qui n'ont pas toujours une direction risk management ou assurance, etc. Est-ce que ça arrive? Vous me dites. Est-ce que ça arrive qu'on se trompe ou qu'on se dise qu'on signe le contrat finalement un peu à la va-vite? Parce qu'apparemment, dans ce que vous me dites, le contrat d'assurance, il est essentiel pour le fonctionnement de l'entreprise.
Le contrat d'assurance va être essentiel, et également sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur le montant des capitaux qui sont assurés.
Vaut mieux le savoir en amont, ça.
Il vaut mieux le savoir en amont.
Avant la souscription.
D'où la nécessité pour sécuriser cette valorisation, de faire appel à nos services, par exemple.
Ah oui.
Pour mettre en place
avant de signer le contrat,
des dossiers, des missions.
Donc moi je suis industriel, je fais appel à Laurent Cousin, je fais accompagnez-moi pour choisir le juste prix et la bonne police d'assurance qui
conviendra. La bonne assiette.
Donc vous allez comprendre ce que je fais, vous allez entrer dans mon univers. À partir de là, vous allez procéder aux évaluations nécessaires pour pouvoir en fait en toute objectivité être une formidable aide à la décision. C'est
voilà.
Bien ça.
On va accompagner l'industriel. Pour déterminer de façon indépendante le montant des capitaux assurables, sur la partie bâtiment que sur la
Est-ce
partie matérielle.
Ils le font. Est-ce que vous avez
On
beaucoup
va dire
de clients
que
qui vous
depuis,
sollicitent
alors, ils le font historiquement, bien évidemment, mais on voit depuis la période Covid et le phénomène inflationniste qui a eu juste après, une augmentation des demandes. Oui. De la part des industriels et même, dans certains cas, des assureurs. Ce qu'on voit que maintenant, justement, avec le phénomène inflationniste, on a aussi la récurrence de certains événements climatiques qui impactent directement les industriels. Les assureurs ou courtiers demandent à ce que leurs clients produisent une évaluation faite par un cabinet d'expertise tiers pour, on va dire, asseoir l'assiette du montant de la prime. Donc, c'est là où nous intervenons pour accompagner nos clients dans la valorisation de ces actifs, à des fins assurantielles uniquement.
Dans ce cas-là. C'est hyper important, justement. J'ai couvert un sujet d'une société qui fabriquait du plastique. Mmh. Ils étaient que 15, avec un entrepôt qui faisait 20 000 mètres carrés, mmh. un truc de malade. Et en fait, ils avaient été extrêmement mal couverts lors d'un sinistre. Mmh. Mais ils ont pu être rattrapés, en fait, et finalement très bien s'en sortir. Et ça leur a permis, exactement ce que vous disiez, David, mmh. de changer de lieu, d'investir dans des nouvelles machines et de retravailler leur outil de production. On va revenir vers vous, Laurent, justement, pour ces sujets. Je voudrais qu'on évoque avec vous, David, la loi climat et est-ce que j'ai mon BACS
Facile, ça.
Là, bien sûr,
vous l'avez?
Je me suis dit, bon, etc. Non, bah non, non. Bon, celui à qui je l'ai volé, il n'a pas voulu me donner le code d'entrée, donc voilà.
Mais aujourd'hui,
La loi BACS est hyper importante. Oui. Je voudrais que vous nous fassiez un petit cours, si vous voulez bien, deux minutes, sur justement de quoi on parle pour la loi climat, et notamment la loi BACS, donc le décret BACS, et notamment le fait de rendre, entre guillemets, à la nature. Certains lieux, parce qu'on doit végétaliser nécessairement, parce qu'on a tendance à croire que dans la loi zéro artificialisation nette, on retient que le zéro, en fait. Et en fait, c'est pas zéro.
Non, c'est pas zéro.
Non, mais souvent, alors, bon, souvent, quand vous interrogez les personnes, d'ailleurs, même le grand public, qui connaît un peu ce sujet, dit, c'est fini, on s'étale plus, etc. Non, on continue à s'étaler, sauf que la place de la nature va prendre une dimension particulière. Voilà. Vous nous expliquez ça.
Ben aujourd'hui, quand on a un bâtiment industriel, alors on a eu une époque où on voulait mettre des panneaux photovoltaïques partout sur les toitures et tout ça. Maintenant, on pense plutôt à la végétalisation de nos toitures et retour végétaux, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a des contraintes aujourd'hui sur des mises en conformité, ce qu'on appelle les mises en conformité. Pour nous,
mise en conformité, c'est la mise en conformité d'un texte.
D'un
texte réglementaire sans lequel on ne peut pas continuer à travailler.
Et on ne peut pas.
Pour être très clair.
Voilà, tout à fait.
Soit on est dans la réglementation, soit on n'est pas. Et du coup, voilà.
Et là, on se trouve dans une contrainte.
Donc, c'est vital pour
les boîtes. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vital. Et puis, on se trouve dans une contrainte. Encore une fois, je reviens sur le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, après un sinistre industriel, est-ce qu'on a les garanties suffisantes pour faire face à ça? La problématique des mises en conformité, alors, ça se développe, il y en a des mises en conformité partout. Donc aujourd'hui, il y a quelques années, il y a 20 ans, on avait une garantie qui s'appelait garantie fourre-tout, on va appeler ça garantie annexe, dans laquelle il y avait notamment les honoraires d'architectes qui pouvaient être attachés dans cette garantie quand ils n'étaient pas attachés au bâtiment, mais il y avait également les frais de déblai et démolition, les problématiques d'amiante et tout ça. Et il y avait une petite clause qui s'appelait frais de mise en conformité. Les frais de mise en conformité. Et les frais de mise en conformité, aujourd'hui, on s'aperçoit que le ratio qui existait, c'est-à-dire entre les frais de déblai, démolition et les frais de mise en conformité, il y avait, 75% qui étaient liés aux frais de déblai, démolition, et puis 25% sur les frais de mise en conformité. C'est en train de s'inverser.
À cause de l'inflation normative.
Avec une inflation énorme. Et un coût énorme.
En fait, le poids normatif devient tellement... C'est limite décourageant quand même.
C'est limite décourageant, ça va dans le bon sens.
Oui, on est tous d'accord, mais je veux dire...
Après, il faut trouver la bonne adéquation avec le contrat d'assurance.
Aujourd'hui, quand on veut être industriel, il faut être, je sais pas, polytechnicien. D'ailleurs, pour faire votre métier, je regarde juste... je regarde ce que vous faites. Financier, technique, vous êtes d'une polyvalence absolument incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme école pour devenir expert?
Alors, on fait plusieurs écoles, mais pas la même personne. C'est-à-dire que quand on va faire un sinistre industriel, on a trois items importants qui sont le bâtiment, le matériel et les installations techniques, les marchandises et la perte d'exploitation, et tout l'aspect financier. Et nous avons des spécialistes pour ces trois possibilités.
Ah d'accord, donc ça veut dire qu'il y a toujours trois experts qui sont spécialisés
sur, majeur,
sur le bâtimentaire, sur les actifs corporels, notamment les machines qui valent certainement beaucoup d'argent, et la perte d'exploitation, perte d'exploitation, là on a plutôt des financiers qui analysent complètement les éléments. Et vous coordonnez l'ensemble.
Et il y a un pilote de dossier.
D'accord.
Il y a un pilote pour chaque dossier industriel, comme ça.
Voilà. Alors, justement, je voudrais qu'on continue juste sur tes... je voudrais qu'on parle de quoi parle-t-on quand on parle de valeur de remise à neuf entre l'écart de prix avec les nouvelles normes, la prise en charge ou pas par l'assurance. Et finalement, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, tout ça, il y a une genèse, c'est le démarrage du contrat.
Bah, tout à fait.
Que dans la souscription du contrat, c'est-à-dire que si on ne veut pas avoir à négocier ou à entrer parfois en litige dur avec des compagnies, et il y en a, hein, je peux vous dire qu'il y en a, vous le savez, d'ailleurs c'est là que le rôle de l'expert est fondamental.
Fondamental.
Et d'ailleurs, voilà, pour être très clair, parlez-nous de ça, le bon réflexe, de quoi on parle exactement, qu'on sache exactement ce que ça veut dire.
Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'hier, un évaluateur qui fait de l'international m'appelle de l'équipe de Laurent, et me dit « David, j'interviens dans un laboratoire pharmaceutique. On avait évalué il y a 5 ans les salles blanches du laboratoire pharmaceutique, c'est à l'étranger. »
C'est quoi une salle blanche ?
Les salles blanches, c'est les salles qui sont réglementées pour travailler dans les laboratoires pharmaceutiques,
pour faire les médicaments, tout ça. Il n'y a pas de poussière,
c'est stérile. Genre stérile,
tout à fait. Et donc, aujourd'hui, il me dit « Le coût de la construction des salles blanches, il y a une inflation des prix, mais c'est pas énorme. Par contre, tout ce qui est attaché à la salle blanche, c'est-à-dire les frais de qualification de la salle blanche, ont explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contraintes pour que les salles blanches soient opérationnelles, ça nécessite d'énormes coûts de qualification et de certification. Est-ce que ces coûts de qualification et de certification, on les attache à la valeur qu'on va donner sur nos agencements ? Oui, pour moi, oui. Parce que imaginons qu'il y ait un sinistre, à un moment donné, il faudra repasser par une qualification, repasser par une certification, donc tu ne peux pas dissocier.
On ne peut pas dissocier,
peut pas dissocier les deux choses.
De la qualification, bien sûr.
Un autre souci, quand on a un matériel.
En fait, on a le corporel et l'incorporel.
Il y a des corporels et incorporels. Mais il faut tenir compte des deux
comme dans un bilan.
Bien sûr.
Absolument. Qu'elle compose la valeur.
Voilà, tout à fait. Et il y a aussi d'autres choses, par exemple sur le matériel. Des matériels dans les laboratoires également. Il y a des matériels qui sont certifiés. Il ne serait-ce qu'un déplacement de ce matériel dans une autre usine nécessite une nouvelle qualification. Wow. Parce que l'environnement change et tout ça. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans l'évaluation qu'on fait.
En fait, il y a une accélération normative à tous les niveaux dans ce métier.
Complètement.
Comment vous faites pour vous mettre à jour ?
On essaie d'avoir au maximum d'être à jour. Alors on suit toutes les lois. On s'est mis en place un petit.
Vous avez une veille
logicielle. On a une veille juridique. On a une veille juridique qui se fait là-dessus et voilà. Donc
on a des directeurs techniques dans chaque pôle aussi qui sont là pour justement suivre toutes les réglementations et former les équipes et être en veille en fait.
Mais alors la veille est une évidence absolue, bien évidemment. L'origine des experts, c'est quoi ? Ce sont des professionnels qui viennent du secteur ? Ce sont des ingés ?
Comment
fait votre métier ?
C'est très différent dans les trois pôles. Hein. Les univers sont différents et les formations sont différentes. Donc, sur la partie immobilière, on a, entre guillemets, la chance d'avoir aujourd'hui des formations... Alors, l'expert immobilier n'est pas réglementé. Hein. Moi, je vois, j'ai la certification d'expert immobilier, je ne la connais pas. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas.
Il n'est pas réglementé, il n'y a pas un texte.
Non. Par contre, la profession, non. La profession, c'est vraiment organisé, nous avons des certifications. Mais n'importe qui peut mettre expert immobilier, voilà.
Donc, par exemple, dans la loi Auguet, il n'y a rien qui mentionne.
Non. Mais nous avons un certain nombre d'écoles et de formations en immobilier qui donnent une formation aux experts. Il y a quelques heures de formation sur la partie expertise immobilière.
Il y a des instituts aussi qui labellisent. Il y a aussi la RICS qui
tout à fait. Et puis il y a de nombreuses formations et il n'y a pas que les méthodes d'expertise. Il y a l'environnement économique, il y a les baux commerciaux, il y a tout ce qui est la fiscalité, tout ce qui est autour. Je vais laisser la parole à Laurent aussi avec David parce que les cursus ne sont pas les mêmes et les
non. Laurent, pour faire votre métier ? Parce que vous avez un métier qui est hyper important.
Alors, on est un petit peu organisé comme les équipes de David, c'est-à-dire qu'un expert évaluateur chez nous ne va pas traiter tous les aspects de l'évaluation que nous avons au niveau du pôle.
L'essentiel... Ah, vous voulez dire que les évaluateurs ont aussi leur spécialité ?
Oui, c'est ça.
Donc, donc on peut avoir des évaluateurs dans des bâtiments, dans des classes d'actifs très spécifiques.
Oui, et on va avoir des profils qui vont être plus orientés sur la partie valeur d'assurance, donc estimation préalable en valeur d'assurance. Mais on va avoir des profils qui vont traiter de la valeur globale d'entreprise.
Excusez-moi, Laurent, que je comprenne. C'est quoi une estimation préalable de valeur d'assurance ?
Ben, c'est de pouvoir, comme on l'évoquait tout à l'heure,
évaluer les quantums
de pouvoir
de
évaluer la valeur de, voilà, des
basiquement,
capitaux.
J'ai entreprise, il faut, voilà, là, vous en avez pour 3 millions, là, il y en a pour 5, c'est ça. Hein,
c'est ça.
C'est ça. Et donc, prenez minimum 3 millions de garantie ou 5 millions de garantie, parce qu'au-dessus, vous n'y êtes pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Concrètement.
C'est ça. C'est ça. Okay, c'est à des fins assurantielles uniquement.
J'ai compris. En fait, c'est à partir de là que la police d'assurance va se redresser, que la souscription va s'opérer.
C'est ça.
D'accord. Okay. C'est pas le rôle du courtier, ça.
Ben, le courtier ne fait pas ça. Il demande à un tiers.
Le courtier. Ah non, le courtier, oui, c'est votre client en fait.
Oui. Alors, le courtier ne va pas être notre client. Nous, notre client, ça va toujours être l'industriel. C'est lui qui est notre donneur d'ordre, qui est soit propriétaire, soit exploitant du, okay, du bâtiment.
Imaginons qu'il
du
a
matériel.
Un courtier, votre client.
Oui.
Quel rôle il joue, le courtier, du coup?
C'est d'être en adéquation. Encore une fois, nous, on valorise le capital à souscrire, et c'est au courtier de rentrer, d'intégrer ce capital dans sa police d'assurance.
D'accord. Et d'aller chercher la meilleure qui convient.
Et après, de faire tout le travail qu'il fait de courtage.
Ça serait pas plus logique que le courtier, lui, justement, ait une fonction d'analyse et de conseil, non, en amont, avec vous, ou pas? Ou alors, je dis...
Il va analyser nos capitaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on va
en fait, vous avez concrètement le recul technique qui permet de faire l'évaluation, parce que le courtier, lui, fait que de l'assurance et il n'a pas ce recul. Donc, vous êtes hyper important. Et je comprends que le client soit votre client. C'est le cas dans tous les sujets. C'est toujours le propriétaire qui est votre donneur d'ordre.
Propriétaire ou exploitant.
Exploitant.
Qui seront les donneurs d'ordre. Alors, parfois, ils nous appellent, bien
Quand
évidemment.
Quand vous dites exploitant, par exemple, c'est...
C'est que vous pouvez être locataire voilà, d'un bâtiment industriel.
Le mec a loué un bâtiment industriel.
Voilà.
Qui fait
qui
le truc, il
n'est
pas
à
lui.
Machines.
Voilà, c'est l'exploitant, d'accord.
Voilà. Okay. Il aura besoin d'assurer une partie des bâtiments, une partie des agencements et son matériel de production. Et donc, il fait appel à nos services pour pouvoir évaluer le montant des capitaux.
On en a parlé tout à l'heure. Je voudrais que vous nous éclairiez sur quelque chose. À chaque fois que j'évoque ce terme, il faut absolument que je prenne un Temesta ou du Valium. C'est la notion de fiscalité. Genre le truc qui fait mal à la tête à tout le monde.
C'est ça. Et pourtant, un sujet
essentiel. Mais qui est un sujet... Mais c'est fondamental, quoi.
Oui.
Alors, c'est vrai que, bon, c'est pas hyper sexy hein, quand on parle de la fiscalité.
Si.
Vous savez quoi? Allez, pari tenu, faites-nous aimer la fiscalité. Voilà. Non, parce que ceux qui nous écoutent savent que c'est fondamental, d'accord, et que c'est un sujet hyper important. Justement, parlez-nous de ça, parce que je sais que c'est un point extrêmement névralgique.
Oui. Ben, alors, on voit que, au fil du temps, le poids de la fiscalité locale, c'est de celle-là dont on parle, mais c'est un poids qui augmente.
La fiscalité locale, c'est la fiscalité du lieu dans lequel on se trouve.
Voilà, donc ça va être toute la partie des impôts locaux, donc la taxe foncière, pour les professionnels, la cotisation foncière des entreprises. Sur la région parisienne, l'Île-de-France, on a la partie de la taxe des bureaux, qu'on va, de notre côté, chez Galtier, auditer, reconstituer pour justement l'optimiser et accompagner nos clients industriels et dans d'autres domaines également pour pouvoir l'optimiser et la déterminer à sa juste valeur. Donc on a deux types d'accompagnement. On va travailler en amont d'un projet immobilier pour optimiser la déclaration foncière à déposer. On est aussi intervenu sur des clients qui réfléchissaient à se positionner sur telle ou telle commune, et ils voulaient qu'on évalue le poids de la fiscalité future, parce que c'est aussi un élément, pas le seul élément déterminant.
Vous voulez dire que l'industriel qui voudrait s'installer ou migrer d'une autre région pourrait vous solliciter en disant
je veux
optimiser ma fiscalité, un peu comme avaient fait les Japonais quand ils s'étaient installés dans le Valenciennois. Qui avaient pendant quelques années pillé les caisses de l'État, parce qu'une fois qu'ils avaient consommé les aides, ils se sont barrés, quand même. Merci. Comme quoi, ça vaut le coup de remettre nos industries aussi. Mais on peut aussi... Ça arrive, ça, on vous sollicite.
Voilà. Donc on fait tout ce travail d'analyse et de reconstitution, de projection.
Non, mais vous avez un job en or massif. Parce que, je parle des élus locaux, ils ont intérêt très sympa avec vous, quoi. Vous imaginez... Moi, je suis un élu local. J'ai une démographie.
On n'accepte pas d'enveloppe. Hein,
voilà. Non, mais Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit. Soyons sérieux, justement. L'élu local, qui est dans une démographie négative, a besoin de relocaliser de l'industrie. Pour ça, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'entrepreneurs qui veulent s'installer, mais il a surtout aussi besoin de logements, qui permet de loger les salariés. Donc, vous avez une fonction qui est hyper intéressante. Est-ce que, justement, au sujet de la fiscalité locale, qui est complexe, il y a des personnes dans votre service qui font que ça?
Ben, en l'occurrence, moi.
C'est le spécialiste.
Ça fait un petit peu plus de 30 ans maintenant que je traite des sujets de fiscalité locale. Et on a une équipe au sein du
donc
cabinet.
Donc, vous connaissez la fiscalité des élus locaux?
Alors, on va être fiscalité côté entreprise de nos clients, puisque c'est...
Et vous comprenez les mécanismes des leviers fiscaux d'une collectivité locale?
Bien sûr.
Vous avez vu qu'on les a massacrés, alors?
Oui, avec la suppression de la taxe d'habitation, absolument, du transfert d'un certain nombre de...
Et puis de transfert de compétences sans y associer les recettes, voilà. Ce qui les rend fous actuellement avec ce genre de sujet. Ça doit vous travailler, justement, cette histoire vis-à-vis de vos clients.
Bah oui, parce qu'on le prend en compte justement dans nos travaux de reconstitution et d'audit. Mais notre axe principal, ça va être la défense des intérêts de notre client.
Eh bah oui.
Voilà. Enfin, on est de ce côté-là.
Mais c'est arrivé,
de la
c'est arrivé que vous disiez à tel ou tel client, sans citer de région, allez plutôt dans cette région parce que ça sera mieux plutôt qu'une autre.
Bah, nos travaux de reconstitution.
Non mais c'est intéressant, qui aurait pu en bénéficier et dans notre pays on a besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Donc c'est aussi intéressant ce que vous dites parce que vous mettez le point sur parfois des questionnements qui sont d'ordre politique et qui justement favoriseraient l'implantation d'industries dont on a besoin dans ce pays. Voilà. Et notamment sur les villes moyennes. Je ne parle pas des grandes zones tendues, parce que vous savez que dans les grandes zones tendues, on n'arrive pas à se loger, vous le savez, hein, il n'y a pas d'offre à la location. Mmh. Donc vous pouvez monter toutes les industries que vous voulez en zone tendue, et on ne trouvera pas de logement pour les salariés.
Pour travailler.
C'est un vrai sujet. Et c'est un frein. Qui a été majeur. Vous savez, la Gigafactory Tesla qui est allée en Allemagne, je crois, qui a échappé au projet qui était sur où Sénat avait candidaté. Bon, déjà, les Allemands l'ont fait en 6 mois, nous, il fallait 2 ans. Et puis surtout, il y avait un sujet autour du logement qui était
main-d'œuvre, qualification. Enfin, je veux dire, c'est un moment, il faut que le bassin d'emploi soit
mobilité,
autour.
Absolument.
C'est ce qu'on voit.
Attirer des talents.
Voilà, on ne peut pas mettre ça n'importe où.
Laurent, je continue avec vous, justement. Je voudrais, et c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que pour l'instant, j'ai tout compris. J'essaie d'avoir tout compris. un point de vigilance, justement, sur la distinction entre le bâtiment et le matériel, vous l'avez dit tout à l'heure, sont des éléments qui sont des éléments bilanciels, non? On est d'accord là-dessus?
Alors, principalement, oui, mais on va avoir certaines spécificités, parce que... autant un bâtiment, on sait l'identifier assez clairement, il sera bien dans la catégorie des bâtiments.
Et il a une valeur tangible.
Une ligne de production, on saura bien l'identifier comme étant...
Une ligne de production, c'est le matériel.
C'est de la partie matérielle. D'accord. Et on va avoir une zone un petit peu grise au milieu où, parfois, en fonction de la manière dont on se positionne et du type d'évaluation, il faut prendre un petit peu de recul parce que c'est pas toujours évident. Et c'est le cas notamment lorsqu'on intervient avec les équipes de Coralie sur des missions de valorisation, où nos collègues de chez Galtier Evaluation vont valoriser la partie bâtiment dans le cadre d'une valeur vénale, et nous intervenons dans le cadre d'une juste valeur matérielle. Il y a certains actifs où on doit bien se positionner pour savoir qui va, de nos deux équipes, valoriser cet actif. Je vais prendre l'exemple qu'on rencontre assez souvent, par exemple, sur des tanks ou des silos de stockage
Le
véhicule.
C'est un autre terme de silo.
Voilà. Des citernes, des réservoirs de stockage assez volumineux. Et,
c'est un sacré métier que vous avez là. Voilà.
Et donc, il faut bien se positionner, savoir cette immobilisation, cet investissement, est-ce qu'il va relever plus de la partie bâtiment ou de la partie matérielle?
Et comment vous faites alors?
On se parle.
Mais comment, on échange.
Non, mais je veux dire, il y a des discussions un peu animées parfois ou...
Justement, de bien analyser, on va dire.
En fait, ce qui est du ressort du bâtiment, mais Ça paraît simple quand on le dit comme ça.
Non, parce qu'il y a des enveloppes qui sont autour d'équipements techniques qui ne sont que des enveloppes pour des équipements techniques. Ce n'est pas du vrai bâtiment, en fait. Ce n'est pas du bâtiment qu'on va expertiser chez Gatti.
Une enveloppe, ça serait quoi, par exemple
Vous prenez une charpente métallique avec du bardage qui va abriter uniquement un process industriel, un process vertical, avec des réacteurs.
Oui, je pense à ça.
Tout le process, à l'intérieur, en fait... On n'a pas en permanence d'opérateur ou de salle de contrôle. C'est vraiment cette structure métallique, cette charpente, ne sert qu'à supporter le process. Si demain le process s'arrête, la charpente n'a plus d'utilité.
Et donc elle n'est pas forcément liée au bâtiment.
C'est pas du bâtiment,
c'est une construction, un bâtiment immeuble en tant que tel. Et donc c'est dans ces cas-là où on échange avec les équipes de Coralie. Et c'est vraiment du cas par cas sur nos clients. Sur certains sujets, il n'y a aucune discussion. Parce que c'est très clair, mais dans certains process, notamment la partie chimie, pharmaceutique, là, il faut qu'on ait une discussion en amont pour bien définir le périmètre de la partie immobilière, le but de la mission étant de valoriser la totalité des actifs de nos clients, il ne faut pas qu'il y ait d'oubli.
Mais vous passez un temps infini pour certains dossiers.
Non, parce qu'après, après, avec l'habitude et la connaissance qu'on a des process industriels et des actifs, c'est juste de définir une note de cadrage et de bien valider
c'est toute l'expérience
qui relève ces actifs.
Non, mais franchement, c'est passionnant. Ça recrute
On recrute, justement.
Tout à fait.
On recrute et on cherche du talent. Et on forme.
Talent, c'est moi. Voilà. Non. C'est passionnant ce que vous dites. Il y a plein de sujets. Ah oui. En fait, vous êtes des polytechniciens au sens propre du terme. Non, mais poly.
Oui, j'ai bien compris.
Non, mais attendez, c'est pas le cas.
On a plusieurs arbitres.
Vous êtes le coordinateur de votre service, on est d'accord
dans votre direction. C'est ça.
Donc vous coordonnez plusieurs technicités.
Oui.
Et donc vous faites de la polytechnicité.
Oui.
N'est-ce pas
C'est une connaissance parfaite.
D'accord, c'est dialectique. Non, mais c'est hyper intéressant et hyper important. Est-ce que, on va approcher bientôt de la fin de cette émission, je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table. Est-ce que, Laurent, on a une catégorie de clients, j'entends, des propriétaires, des exploitants, qui sont affûtés et qui maîtrisent le sujet et qui sent, parce que moi quand je vous écoute, je me dis, mais c'est vital d'avoir un accompagnement de cette nature. Pour moi, c'est plus que vital. Ouais. Et j'hésiterai pas à investir dans le conseil pour ça. Je me poserai même pas la question. Il y a trop d'enjeux en ce qui me concerne. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que les clients en ont conscience ou pas? Est-ce qu'ils savent que vous êtes un investissement indispensable?
Alors, pour la plupart de nos clients, oui, et c'est pour ça qu'ils font appel à nous de façon régulière.
Je parle plutôt dans le marché. Comment vous le sentez? Vous connaissez votre marché?
Le marché, on s'aperçoit que parfois, les clients pensent connaître le sujet, vont essayer de le traiter d'abord seul, interne, ils s'aperçoivent parfois... On parlait tout à l'heure de fiscalité locale, dès le moment où il va échanger avec l'administration fiscale ou à l'occasion d'un contrôle fiscal, parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise, ça arrive.
C'est au secours l'expert.
Voilà, et c'est de dire, tiens, Galtier, je sais que vous intervenez...
J'aurais dû vous appeler avant, mais j'ai pas pensé...
Vous intervenez dans le cadre de gestion des immobilisations sur des sujets de fiscalité locale. Est-ce que vous pouvez jeter un petit coup d'œil à mon dossier? Et ils s'aperçoivent que ce qu'ils avaient, eux, essayé de mener à bien de leur côté, qui n'avait pas abouti, nous, avec la bonne équipe, notre expérience, on arrive à faire aboutir leurs problématiques assez rapidement et avoir une réponse, on va dire, plus importante et plus favorable que ce qu'ils avaient essayé d'initier tout seul. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, de faire appel à des experts, tels qu'ils existent, chez Expertise Galtier, c'est une vraie sécurité et un vrai atout pour eux et l'ensemble de leur
sécurité,
projet.
Sécurité, moi je dirais même une garantie dans une certaine c'est très clair. C'est un investissement, c'est pas une dépense c'est un investissement.
Et c'est un gain.
Pour moi, ça serait. Vous voulez que je vous dise, moi je prends pas. Ben, Pour moi, c'est du haut de bilan, hein, ce que vous faites. Hein, c'est, ça n'a pas de prix. Mmh. C'est très clair. C'est très clair. Alors justement, merci, hein, Laurent Cousin.
Merci.
Parce que c'est technique, c'est complexe, et vous avez suffisamment de pédagogie pour nous faire comprendre ça, et ça, c'est très important, parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas des spécialistes. Mmh. Et donc, effectivement, c'est vous le spécialiste. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous sollicite. David Pitoun, justement, si on devait aujourd'hui synthétiser dans votre activité, qui est une activité, effectivement, sur les sinistres, qu'est-ce que vous... Alors, un peu la même question. Comment ils réagissent vos clients, et qu'est-ce qu'ils se disent, finalement, lorsque vous les accompagnez? Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui au niveau du marché industriel qui fait que demain, on est armé, comme dirait notre cher président, pour relocaliser de l'industrie dans notre pays?
Ah, alors, ça c'est une vaste question. Alors déjà, il y a deux attitudes que le client peut avoir. Au début, en effet, comme disait Laurent, ne vous inquiétez pas, on a les compétences en interne pour régler ce problème-là et tout ça. Et puis, au fur et à mesure de l'expertise,
ah ouais,
quand ça se passe, quand ça...
C'est sûr.
Là, ils viennent vers nous, et puis on voit le nombre de questions qui commencent à arriver et tout ça, et on s'aperçoit que finalement les compétences, peut-être ils ne les avaient pas en interne, et que les premières décisions qui sont très importantes, encore une fois je reviens sur mon terme de lessiveuse, les premières décisions qu'on met au début du dossier sont très importantes. Donc je pense notamment, alors je reviens sur mon, parce que je suis expert financier à la base, mais sur les problématiques de rentabilité de nos frais supplémentaires, c'est-à-dire qu'on décide à un moment donné, une usine brûle, l'industriel n'a pas d'autres capacités de production, donc il se tourne vers la sous-traitance. En se tournant vers la sous-traitance, il va voir qui ? Il va voir son concurrent. Et son concurrent le voit arriver en disant, bah, c'est bien gentil, tu viens me voir, mais moi je vais fixer les prix, parce que je sais que tu as tes clients derrière, je vais fixer les prix.
Oui, et comme je te tiens par les bras...
Voilà, je te tiens par les bras, on va dire ça comme ça. Et donc, à ce moment-là, je vais fixer les prix.
Ça ne m'étonne pas du tout.
Et donc, j'ai un problème à la finale de rentabilité de mes frais sup. De mes frais supplémentaires, pardon.
Ah, c'est ça qu'on appelle les frais supplémentaires.
Frais supplémentaires d'exploitation. Et donc à la finale, et puis nous, on est là...
C'est mortifère comme opération, ça.
C'est un peu mortifère. Mais nous, on est là également pour essayer de présenter à l'assureur. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir une vision à court terme. Donc on a une période d'indemnisation de 12 mois, de 24 mois par exemple. Une période d'indemnisation, c'est l'impact que peut avoir l'assureur pendant la période où l'entreprise est sinistrée.
C'est un accompagnement.
C'est un accompagnement pendant 24 mois.
Durée,
il a une possibilité de calculer, d'estimer le préjudice pour 24 mois.
Les machines ont brûlé, par exemple.
Voilà.
On débloque tout de suite des fonds pour racheter éventuellement des machines, pour reprendre ou pas de la production,
c'est
etc.
Ça. Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Et donc, ça donne un délai.
D'accord.
Donc, on a 12 mois. Alors, quand on a une pérennisation, le temps qu'on remette l'outil de production en place, c'est 12 mois. Mm-hmm. Donc, pendant 12 mois, on fait de la sous-traitance. Et pendant ces 12 mois, on s'aperçoit qu'on n'est pas rentable sur la sous-traitance qu'on a engagée. C'est-à-dire qu'on va vendre à nos clients.
Mais en fait, on se tire une balle dans le pied, quoi.
Oui, mais sur 12 mois. Or, on a une période d'indemnisation de 24 mois. Et quand on a des contrats de 24 mois avec nos clients, c'est à nous de dire à l'assureur, oui, mais si vous ne prenez pas ce risque-là, on va être pénalisé pendant 24 mois, parce qu'on va perdre du marché pendant 24 mois. Donc, cette discussion-là, il faut l'avoir au tout début du dossier avec l'assureur, pour savoir vraiment où on se place. Donc,
et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire avec le client. Parce que le client, il est démuni là-dessus.
Ah bah, il a pas
dit... Il ne sait pas parler de ça avec l'assureur.
Non.
Ah, mais certains...
Bah, il n'a pas le langage, il n'a pas
le...
Métier,
voilà. C'est pas son métier.
Ah ouais, c'est pas son métier.
Non.
Et là, du coup, quand vous lui présentez la note d'honoraire, c'est nos problèmes.
Normalement, oui. Normalement, oui. Parce qu'il se rend compte de la valeur ajoutée.
C'est comme si vous disiez au cardiologue qui va vous faire un triple pontage, vous me pètes un prix.
Ouais, mais non.
Non, mais voilà. Je veux dire, ça ne vous viendrait pas l'idée.
Non.
Eh ben, ça ne vous viendrait pas l'idée de négocier les honoraires de votre expert. Vous êtes les thérapeutes de la santé patrimoniale de vos clients.
Oh, c'est bien. Oh, c'est,
ça. Oui. Au même titre que les cardiologues. Non, mais attendez, au même titre que les cardiologues. Vrai ou faux, Laurent ?
Tout à fait.
On les aide dans leurs décisions.
Allô, docteur Cousin.
Ouais.
Voilà. Hein, non, mais
c'est la fiscalité, oui.
Vous faites un métier qui est un métier central. Alors, justement, parce que je voulais juste. Pour bien faire la conclusion, votre modèle économique,
oui,
c'est du jus de cerveau.
Un peu.
Donc vous êtes rémunéré sur des honoraires que vous fixez à l'avance. Est-ce que vous fixez des conventions avec vos clients ? Comment c'est du temps passé ? Comment ça se passe ?
On a un contrat,
pour ceux qui nous écoutent.
On a un contrat qui ressemble un peu à un success fees. C'est-à-dire qu'on a un barème applicable, ce qu'on appelle le barème Galtier, et on va travailler par rapport à ce barème-là.
D'accord.
Et vis-à-vis de nos clients, on dit en fonction du montant d'indemnité ou de dommages, plutôt qu'on va arrêter contractuellement, parce que la base de l'assiette, c'est les dommages. Et il y a un pourcentage.
C'est extrêmement clair. Coralie, pour conclure cette émission, c'est hyper intéressant, hein, en fait. On se rend compte qu'en fait, dans l'approche de l'actif industriel, on pourrait même faire des analogies sur d'autres types d'actifs, notamment actifs commerciaux, par exemple.
On revient quand tu veux.
Oui, et ça serait génial, justement, d'évaluer. On a raison de dire que c'est vraiment de la polytechnicité.
Oui, oui, tout à fait, c'est un actif...
Parce que vous faites de tout. Hein.
Alors, c'est un actif complexe en soi, hein, ouais, par rapport à du bureau ou autre, parce qu'il y a vraiment une production industrielle à l'intérieur de ces actifs. Et on est vraiment là pour aider les clients, les accompagner dans la valorisation au début, dans la juste valeur, dans les équipements, dans les matériaux, pour qu'ils soient en conformité réglementaire, comme on l'a vu, parce que c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, on a des nouveautés. Et puis, surtout, pour les permettre d'identifier et d'anticiper les risques, notamment c'est ce que disaient David et Laurent, de vraiment anticiper tous ces risques-là et de les accompagner en cas sinistre. Donc on est sur toute la chaîne. Et même si nous sommes organisés en trois pôles, dans chaque pôle, il y a des compétences vraiment spécialisées formons nos collaborateurs sur. Et il y a surtout une grande transversalité entre les pôles.
Oui, justement.
C'est très important au sein du groupe.
Mais ça, c'est la virtuosité, finalement, de votre groupe.
Tout à fait.
Qui est multipolaire et qui suit en fait la progression du client du début à la fin.
Bien sûr.
Donc vous êtes l'allié objectif de l'économie française.
Et nous n'avons que 130 ans.
Que 130 ans.
Nous n'avons que 130 ans.
Vous n'avez que 130 ans.
Oui, voilà.
Je vous souhaite longue vie. Hein. on va devoir conclure. Je vous propose un petit jeu pour terminer. Ça vous dit ?
Ah bah.
Voilà. Très spontané. Voilà, je vois Laurent qui me regarde.
Il est spontané. Bon,
ça va être chaud, toujours. Je vais vous demander à chacun de dire un mot, un seul. Un mot, un adjectif, comme vous voulez. Très spontanément, qui illustre les propos que nous venons d'échanger. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Laurent ?
Oh ! Spontanément ?
Allez,
technicité.
Ah, c'est pas mal, ça. C'est marrant, ça me surprend pas.
Alors, David. Je vais essayer de le trouver. Transverse.
Transverse, pas mal. Transverse. Coralie.
Accompagnement.
Mais vous êtes passé le mot, c'est pas possible.
Pas du tout.
Pour être dans une trajectoire d'accompagnement, encore faut-il avoir un esprit transverse et pour cela appliquer à tous les niveaux une technicité adaptée. Voilà, ça nous fera une belle conclusion pour cette émission. J'étais ravi de vous voir sur le plateau, vous pouvez venir plus souvent hein, pour nous parler de ce sujet complexe parce que ça c'est des sujets... Alors, je vous le dis, ça fait flipper normalement parce que effectivement, les gens ils se disent... C'est pas possible. Et en fait, en réalité, c'est hyper passionnant. Et on voit, au-delà des technicités que vous avez tous les trois, que vous êtes passionnés par votre métier. Et ça, je vais vous dire, pour les clients, c'est ultra rassurant. Merci beaucoup, Laurent Cousin. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle évaluation et associé du groupe Galtier. Merci.
Merci.
D'être venu sur le plateau. Un grand merci à David Pitoun. J'aime beaucoup votre façon d'approcher votre métier. Vous êtes directeur général délégué et associé du groupe Galtier. Et vous êtes directeur du pôle sinistre. Et vous coordonnez l'ensemble des experts que vous avez. Bravo, c'est un super boulot. Vraiment... chapeau. Ça fait, et ce qui est très intéressant, et encore je rebondis sur ce que nous dirons nos auditeurs, l'important c'est d'acculturer, c'est-à-dire de donner aussi des clés de lisibilité, pas uniquement de rester dans l'entre-soi, parce que parfois avec les experts c'est compliqué, donc vous savez être pédagogue. Merci pour ça. Un immense merci Coralie.
Merci
Coralie
Couvraine,
directrice générale déléguée et associée du groupe Galtier, directrice du pôle immobilier. On vous retrouve bientôt, bien évidemment, sur d'autres aventures avec Galtier. Je rappelle d'ailleurs que Galtier, historiquement, dans notre groupe média, c'est un de nos plus anciens partenaires. On a toujours été extrêmement fidèles à la manœuvre. Et je voudrais qu'on fasse un petit clin d'œil à Baïa de Riche, qui, à mon avis, nous écoute avec beaucoup, beaucoup de vigilance. On l'embrasse bien fort. Voilà, un bon sympa avec un petit clin d'œil à notre ami Théo, le producteur et réalisateur de l'émission. Merci Théo pour cela, puisqu'on est en plus au Mondial du bâtiment toute la semaine. Merci à vous tous, effectivement, de suivre nos programmes. Comme d'habitude, le podcast est à réécouter sur les plateformes d'écoute. Vous likez, vous commentez, toujours avec beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. D'ici là et d'ici nos aventures radiophoniques, prenez soin de vous.
Merci.
Merci Sylvain. Merci.
Émission spéciale Expertise Galtier.
Présentée par Sylvain Lévy-Valency.
Sur Radio Immo.